cafard. Oh là, tu connais le dicton. À défaut de se répéter, elle veut des mecs qui payent. La malade a eu au réveil, t'es entêté. Sur ta belle veut me rajouter. À mon oseille, au confort, elle a goûté. Elle rentre avec nous, j'ai vu.
Radio de la paix, il est 12h. Le journal de midi, Jean-Claude Mabéa.
Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour cette édition de l'actualité de la mi-journée de ce lundi sur Radio de la Paix. Tout de suite, les titres. En prélude à l'opération de révision de la liste électorale, la Commission électorale indépendante CEI a organisé en début de semaine dernière une rencontre d'information et d'échange avec des organisations de la société civile. Les précisions du coordonnateur de la Convention de la société civile ivoirienne, Mahamadou Kouma, sur cette opération en début d'édition. Les acteurs des chaînes de valeur des produits vivriers des localités de Tiébissou et de Toumoudi ont reçu récemment deux centres de groupage de production vivrière des mains du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières. En page internationale, le 19e sommet de la francophonie a pris fin ce vendredi en France. L'intervention du président français Emmanuel Macron sur les sujets abordés à suivre dans cette édition. Et puis, nous refermerons les pages de ce journal avec l'invité de la rédaction en la personne de Nguessan Mahomed, enseignant au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. Il reviendra sur le livre à polémique de Robert Bourgi intitulé « Ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique » dans un entretien conduit par Aoussi Poutin. Voilà pour l'essentiel. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Élection présidentielle de 2025, la période de la révision de la liste électorale est connue depuis quelques jours. Elle est prévue du 19 octobre au 10 novembre 2024, comme annoncé par la Commission électorale indépendante, CEI. Ayant pris part à cette rencontre d'information et d'échange organisée par la CEI en début de semaine dernière, le coordonnateur de la Convention de la société civile ivoirienne, Mahamadou Kouma, se prononce sur cette opération de recensement électoral. Pour lui, les choses se déroulent de façon habituelle et convenable. On l'écoute.
Alors, c'est une réunion que je considère comme classique, basique, et qui s'inscrit dans l'ordre normal des opérations qui doivent être effectuées en prélude des élections de 2025. Nous avons reçu des informations de la part de la CEI, conformément au code électoral. Nous pensons que les choses se passent convenablement. Les opérations qui doivent être effectuées, les listes qui seront mises à la disposition de tous, la possibilité pour chacun de vérifier. Et si nous estimons qu'il y a des choses qui ne vont pas à tel ou tel niveau, mais il revient de droit aux concernés, aux parties prenantes, de les indiquer pour que les mesures soient prises. C'est un travail purement technique.
Et en termes de nouveautés annoncées dans cette opération,
il n'y a pas de nouveautés à proprement parler. Les nouveaux majeurs qui doivent être inscrits, ben, il y a des dispositions je pense techniques et administratives qui sont prises à ce niveau. Ça ne devait pas poser de problème.
Le certificat de nationalité, c'est gratuit maintenant, non?
Le certificat de nationalité, oui, c'est à la portée de tous. Donc ça ne devait pas poser de problème. On sait comment on fait pour l'acquérir.
Le coordonnateur de la Convention de la société civile ivoirienne, Mahamadou Kouma, était en ligne avec Soro Adams. La Guinée-Bissau, le Rwanda, le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire en réflexion à Abidjan dans le cadre de la coopération Sud-Sud pour un partage d'expériences et de pratiques en matière de protection sociale. Un atelier de préparation technique et administrative s'est tenu à cet effet vendredi dernier à l'initiative de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Selon le représentant de la directrice pays de cette organisation, la Côte d'Ivoire devrait investir 6,2% de son PIB pour réduire le déficit en matière de protection sociale. Suivons Jean-Marie Kagabo.
Des analyses du contexte social et économique de la Côte d'Ivoire révèlent que pour réduire le déficit de financement de la Côte d'Ivoire pour la protection sociale universelle, y compris les soins de santé essentiels, il faudrait investir 6,2% du PIB. L'OIT, nous soutenons le gouvernement qui a intégré dans sa nouvelle politique de sécurité sociale un axe entier à l'accroissement du financement et de la sécurité sociale et vise l'adoption d'une loi de financement et l'identification de mécanismes de prélèvement à la source des travailleurs de l'économie informelle. Nous nous réjouissons de la décision du gouvernement ivoirien de prendre en charge les cotisations dues par les producteurs de cacao et leurs familles au titre de la CMU à travers le Conseil Café Cacao. Le projet de coopération sud-sud avec le Rwanda, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau offre l'occasion aux acteurs du système de la protection sociale de s'enrichir des expériences et bonnes pratiques réussies dans des pays ayant des profils quasi identiques à celui de la Côte d'Ivoire. L'Organisation internationale du travail reconnaît l'importance de la coopération sud-sud comme un moyen essentiel de mener à bien sa mission. L'OIT a institué le rôle de la coopération sud-sud pour aider les pays à atteindre leurs objectifs de développement et à réaliser les ODD.
C'était à l'instant le représentant de la directrice pays régionale de l'OIT, Jean-Marie Kagabo. Nous le disions en titre, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, a procédé le mercredi 25 septembre dernier à Thiébissou à l'inauguration ainsi qu'à la remise officielle de deux centres de groupage de produits vivriers aux acteurs des chaînes de valeur. L'un à la localité de Thiébissou et l'autre à celle de Toumoudi et ce en présence du directeur général adjoint du groupe de la Banque africaine de développement Afrique de l'Ouest. Conçu pour améliorer la chaîne de valeur des produits vivriers en optimisant leur transport, stockage, distribution et commercialisation, ces infrastructures ont été réalisées dans le cadre du projet de PAI Bélier, projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier. Projet financé par le groupe de la Banque africaine de développement, nous dit Emilia.
Les caractéristiques de ces centres de groupage avec le maire de Thiébissou, Brungouran Vincent.
Chaque centre s'étend sur une superficie d'un hectare entièrement bétonné et comprend des équipements modernes, des hangars de stockage d'une capacité de 350 tonnes chacun, un bâtiment de 3 magasins avec une capacité totale de 750 tonnes, un pont bascule moderne ainsi que des installations administratives, 2 camions de 5 tonnes, 6 transpalettes, 20 tricycles, 200 cagettes, 300 palettes et des équipements de pesée électronique.
Une idée de l'impact de ces infrastructures avec le porte-parole des bénéficiaires, Ngouran Koufi Roland.
Les centres de groupage de Thiébissou et de Toumoudi ont permis de créer environ 200 emplois directs et indirects.
Le directeur général adjoint de la BAD pour l'Afrique de l'Ouest, Dr Joseph Martial Ribeiro.
La banque se réjouit des résultats du 2PAI Bélier, premier projet de zone de transformation agro-industrielle dénommé Agropole, financé par la BAD pour un montant total d'environ 66 milliards CFA.
Le ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, Kobina Kwasi Adjumani, sur les infrastructures réalisées par son département ministériel au profit de la région du Bélier.
Cette seule région, regardez, 1200 hectares de périmètre rizicole, 2 centres de groupage, 5 marchés ruraux, 4 barrages hydro-agricoles, 117 hectares de périmètre maraîcher et un agroparc, 542 km de pistes rurales. Et nous avons fait une installation importante pour renforcer l'électricité.
Plus de 200 hectares de produits maraîchers ainsi qu'une vingtaine de tricycles ont été également remis par le ministre de l'Agriculture au terme de la cérémonie. Émile Yao, depuis Thiébissou, Radio de la Paix.
On s'intéresse maintenant à la première édition de Champion, événement célébrant la créativité et l'innovation des entrepreneurs. C'est tenu vendredi à Abidjan. Organisé par Côte d'Ivoire Événements, cette édition a mis à l'honneur la jeunesse entrepreneuriale. 5 catégories d'entrepreneurs étaient représentées et ont invité les jeunes à ne pas avoir peur de l'échec et à faire preuve de résilience. Suivons le compte-rendu de Jean-Mélène Bitti.
Foster Ucho, initiateur de Champion, le stand-up de nos héros du quotidien, a présenté les objectifs de l'événement.
Champion, c'est un public qui est dédié à toute personne qui se distingue sur l'année. Que vous soyez jeune, que vous soyez moins jeune, que vous soyez de la deuxième catégorie d'âge, la troisième catégorie d'âge, cette tribune est pour tout le monde.
5 héros étaient à l'honneur. Alain Anzara, Zagba le Ricain, Raissa Banro, Ben Aziz Konaté, Ibrahima Diabaté. Ils ont successivement partagé leur expérience enrichissante. Zagba le Ricain, artiste et promoteurs culturels et Aziz Konaté, chef d'entreprise, ont notamment adressé des messages inspirants à la jeunesse.
L'échec, la souffrance, la persévérance, c'est pour les hommes. Toi, tu ne parles que le côté bonheur. Réveille le talent d'agriculteur qui est en toi. Réveille le talent de boxeur qui est en toi. Il ne faut pas être photocopie, il faut être original.
Tant qu'on n'a pas atteint l'arrivée, on n'est pas arrivé. Et ceux qui réussissent, ils arrivent à continuer de marcher, même quand ils tombent. C'est la seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Quand on a compris ça, on n'a peur de rien.
Le panel a été unanimement salué par les participants.
Cyrine Bakayoko, élève à l'école nationale d'administration. Nos panélistes ont montré que le travail, la persévérance, la sagesse, l'intelligence est mieux.
Timoko Nyoseka Seadasa, je suis juriste. Le mot commun à tous ces panélistes-là est la persévérance. Nous avons incité à avoir une vision et à avoir des stratégies pour pouvoir atteindre cette vision.
Cette première édition était parrainée par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, Touré Mamadou.
Développement local, le district Sassandra Maraoué a organisé récemment une cérémonie de présentation et de remise des livrables de 3 études, dont le livre blanc du district. Le livre blanc prend en compte les attentes des populations du district en matière de développement. Les 2 autres études s'intéressent au phénomène de l'orpaillage clandestin et à l'aménagement des aires de stationnement dans le district, nous apprend Jean-Noël Kwame, notre correspondant régional.
Le professeur Kwame Sylvestre de l'université Alassane Ouattara a présenté le contenu du livre blanc du district Sassandra Maraoué.
Le Sassandra Maraoué est important en termes économiques, culturels, touristiques. Cependant, marqué par de nombreux problèmes de besoins en matière de salles de classe, d'équipement des salles de classe, de l'hydraulique, de l'électrification. Nous connaissons l'importance du district en production agricole, mais la sécurité pose problème. Donc, il y a un besoin en matière de sécurité, de mobilité, de création de nouveaux commissariats, de nouvelles casernes, de brigades de gendarmerie, de telle sorte à mieux sécuriser la population et le développement économique de ce district.
Le ministre gouverneur Babou Diaré a indiqué l'importance du livre blanc et des autres études réalisées.
Quand on nous dit qu'on a un CHR qui mérite d'être CHU, c'est pour agrandir les capacités d'accueil. Quand on nous dit qu'il faut 35 véhicules, c'est parce que c'est très important pour notre sécurité. Le livre blanc, dedans, il y a une foule de besoins que nous devons de transmettre au gouvernement et au président de la République. Les districts ont la possibilité d'avoir des fonds propres, d'intervenir directement dans le développement de leur région. Mais pour le moment, le président de la République et le gouvernement nous demandent de mettre en place des études afin que si c'est un investisseur qui vient, si c'est l'État lui-même qui vient, déjà tout est là.
Les 2 autres études sur le district Sassandra Maraoué portent sur la protection de l'environnement et la préservation de la salubrité et l'aménagement d'aires de stationnement pour la sécurité routière des grands axes du district. Jean-Noël Kwame, Taloa, Radio de la Paix.
Un mot de santé dans cette édition. L'environnement social dans la capitale ivoirienne est favorable au développement des maladies cardiovasculaires, a indiqué Jean-Baptiste Anzouan Kakou, directeur médical et scientifique de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. S'exprimant au cours de la tribune d'échange et d'information du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, dénommé Tout savoir sur, mardi dernier, il a relevé que ces maladies peuvent être évitées en adoptant un mode de vie sain. On l'écoute.
Nous avons un environnement qui est favorable à l'éclosion de ces maladies cardiovasculaires avec le stress, la pollution, la mauvaise alimentation. Nous avons un environnement qui va favoriser l'éclosion de l'hypertension artérielle, l'inactivité physique, favoriser l'éclosion du diabète, favoriser l'éclosion de ces facteurs de risque à tabagisme et donc de l'hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires. Si vous mettez ensemble les maladies cardiovasculaires, insuffisance cardiaque, maladies coronaires et les accidents vasculaires cérébraux, ces maladies cardiovasculaires constituent la première ou la deuxième cause de mortalité dans notre pays. Elles font pratiquement jeu égal avec les maladies qui vont emporter les nouveau-nés, la mortalité néonatale et pratiquement jeu égal avec les infections respiratoires. Donc c'est un problème qui est extrêmement intéressant. On peut prévenir ces maladies cardiovasculaires pourvu que l'on adopte des mesures d'hygiène de vie qui soient favorables.
Le directeur médical et scientifique de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, Jean-Baptiste Anzouan Kakou, à l'instant sur Radio de la Paix. Dans l'actualité internationale, le 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, s'est achevé samedi au Grand Palais à Paris, en France. Un sommet qui a enregistré l'adhésion de 5 nouveaux membres au sein de l'organisation, passant de 88 à 93 États et gouvernements. Lors de la conférence de presse de clôture, lors de ce 19e sommet de l'OIF, le président français Emmanuel Macron est revenu sur les principaux sujets évoqués et les résolutions extraites.
Tous ensemble, nous avons évoqué les sujets qui comptent pour nous tous, avec le double objectif d'accélérer la coopération au sein de la francophonie dans les domaines économiques, éducatifs et culturels, mais aussi de porter ensemble une ambition commune sur les grands enjeux globaux et la solution des crises. Au nom de nos valeurs communes, nous avons aussi formulé un message conjoint sur la fin de la guerre à Gaza comme en Ukraine. Pour nous, il n'y a pas de double standard. Une vie égale une vie. Nous avons aussi redit l'importance de parvenir à une solution durable des crises dans la région des Grands Lacs, apporter notre solidarité avec la RDC, appeler au respect de sa souveraineté, demander une solution régionale et appeler aussi à tous les efforts de sécurisation et de démilitarisation qui sont attendus de chacune des parties prenantes. Sur le Sahel, nous avons exprimé notre volonté que l'OIF soit force de proposition et d'action, comme elle l'a été à l'égard de la Guinée. Sur les questions essentielles du climat, de l'environnement et des grands enjeux qui concernent la planète tout entière, nous avons décidé de lancer des consultations francophones en amont des échéances à venir. Au fond, c'est notre volonté de faire de la francophonie un espace de concertation, de convergence utile pour avoir un multilatéralisme plus efficace et nous organiser d'une même voix tous ensemble. C'est aussi pour cela que la francophonie soutient les deux sièges de membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'Afrique et nous l'avons réitéré.
C'était un extrait de la conférence de presse de fin du 19e sommet de l'OIF du président français Emmanuel Macron. Présidentielle en Tunisie, l'annonce est tombée ce dimanche soir, juste après la fermeture des bureaux de vote. Le président sortant, Kaïs Saïd, est donné vainqueur avec plus de 89% des voix dès le premier tour de la présidentielle, selon un sondage d'un institut privé diffusé à la télévision nationale. Aussitôt après la diffusion de ces chiffres en question, plusieurs centaines de partisans du président sortant sont descendus sur la venu Bourguiba pour célébrer ce qu'ils considèrent déjà comme une victoire de leur candidat, ont constaté des journalistes de l'AFP. Et retour en Côte d'Ivoire pour la dernière, sinon le dernier temps fort de cette édition, l'invité de la rédaction. L'avocat français Robert Bougie vient de publier ses mémoires sous le titre « Ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique ». Un livre parsemé de révélations sur l'antichambre des relations entre la France et certaines de ses anciennes colonies, contenant des révélations sur la crise post-électorale 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Un livre qui suscite diverses réactions et commentaires depuis sa parution. Interrogé par Aoussi Potin, Nguessan Mahomed, enseignant au département d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, professeur d'histoire politique et juge, relève ici que cet ouvrage, au-delà de toute polémique ou controverse, doit pousser les uns et les autres à faire le ménage dans l'arrière-cour de la France-Afrique. Suivons l'entretien.
Professeur Nguessan Mahomed, bonjour.
Bonjour, monsieur.
L'avocat français Robert Bougie vient de publier ses mémoires sous le titre « Ils savent que je sais tout, ma vie en Afrique », un livre parsemé de révélations sur la France-Afrique, en l'occurrence les relations entre les deux fins présidents Omar Bongo, Jacques Chirac, l'argent aussi étant présenté par l'auteur comme un élément incontournable de ces relations, mais aussi l'avocat français fait ses révélations sur l'élection présidentielle de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, des événements qui relèvent pratiquement du passé. Alors dites-nous, comment comprendre dès lors, selon vous, le timing de ces révélations de l'avocat français Robert Bougie?
Je voudrais d'abord faire remarquer que c'est d'abord un mémoire, donc quelque chose d'ordinaire pour des hommes qui sont d'une tradition de l'écriture. Vouloir laisser une trace, donc c'est d'abord quelque chose d'ordinaire. Mais au-delà de l'ordinaire, ce sont surtout les révélations qui sont faites qui retiennent l'attention surtout des Africains que nous sommes. Alors, moi, je pense que c'est la preuve que la crise post-électorale ivoirienne n'a pas encore livré tous ses secrets. À soi, c'est ce à quoi je pense. Il y a donc matière à réflexion, surtout pour nous, les historiens, plus tard, lorsque les archives seront accessibles. Alors, pourquoi maintenant? Tout simplement, c'est tellement que monsieur veut écrire ses mémoires. Donc, moi, je pense que le temps n'est pas important, mais c'est surtout le contenu qui peut faire l'objet de réflexion.
Alors, quelle est l'importance de cette approche pour vous, l'historien, adoptée par l'auteur Robert Bougie, exhumer le passé avec des points qui peuvent être discutés et discutables par d'autres acteurs aussi?
Bon, je l'ai dit tantôt que La première leçon à retenir, c'est que la crise ivoirienne n'a pas fini de révéler tous ses secrets. Ça, c'est de un. De deux, ce qu'il dit montre aussi un peu, si vous voulez, la face cachée de ce qu'on appelle la Françafrique. Je suis courtois, je dirais même la laideur, l'arrière-cour de ces relations entre la France et l'Afrique. Et il dit ça par la vérité, sa vérité à lui. Il appartient maintenant de voir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est moins juste dans tout ce qui a été écrit dans cet ouvrage. Mais, dans l'ensemble, retenons qu'il y a des rapports, je dirais, un peu malsains entre la France et certaines de ces anciennes colonies qui sont aujourd'hui États indépendants, entre guillemets. Et je pense que c'est un des aspects de ce livre.
Alors, parlons donc de la France-Afrique. Aujourd'hui, c'est une génération plus ou moins nouvelle de chefs d'État africains. Les dinosaures se comptent sur le bout des doigts. Est-ce qu'aujourd'hui, la France-Afrique n'a pas quand même connu quelques mutations pour qu'on ne se retrouve plus dans le schéma ou encore dans les scènes décrites par Robert Bougie de chefs d'État africains qui enverraient de l'argent des chefs d'État français pour soutenir leur campagne et autres? Est-ce qu'on nous sommes encore dans ce schéma aujourd'hui?
Cette génération de chefs d'État, je dirais, heureusement ou malheureusement, mais elle est en train de sortir de la scène. Et c'est un peu curieux, mais lorsque vous voyez autour de ces ex-colonies, vous voyez qu'il y a pratiquement d'abord des changements de régime, pas par la voie démocratique. Vous voyez que lorsque ces régimes changent, la première des choses, c'est quoi? C'est de contester l'ordre ancien, la vision ancienne des relations entre la France et l'Afrique. Donc, cette image ancienne n'est plus acceptée par la génération nouvelle.
Vous faites sûrement allusion au Niger, au Burkina et...
tout à fait, au pays de l'AES.
De l'AES et le Mali.
Tout à fait. Donc, à tort ou à raison, ils brandissent cela, mais c'est quand même un fonds de commerce qui a des preneurs. Et ces chefs d'État arrivent à partir d'abord de cette vision ancienne qu'ils contestent à se positionner dans leur pays, vis-à-vis surtout de leur jeunesse. Donc, c'est pour une façon de vous dire que ces relations, telles que vécues à une époque, ne sont plus acceptées par une frange importante de la jeunesse africaine. Il appartient donc aux dirigeants actuels, s'ils sont encore dans ce schéma, de tirer les leçons de tout ce qui se passe autour d'eux, de tout ce qui se passe en Afrique.
Professeur Nguessan Mohamed, ces révélations de Robert Bougie dans son ouvrage, je rappelle donc, ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique, selon vous, peuvent-elles servir ou desservir les relations entre la France et ses anciennes colonies dans la Côte d'Ivoire? Ou donner une nouvelle impulsion?
Tout à fait, tout à fait. Je préfère la dernière expression que vous venez d'employer. Donner une nouvelle impulsion si les uns et les autres font une lecture à froid de tout ce qui a été dit dans l'ouvrage. Parce que, comme je le disais tantôt, cet ouvrage, on ne l'a pas encore lu, mais avec les morceaux choisis, on se rend compte que l'arrière-cour de la France-Afrique n'est pas présentable. Alors, est-ce que la France a intérêt à poursuivre sur cette voie? Si elle poursuit sur cette voie, je ne suis pas quelqu'un qui lit dans une boule de cristal, mais il y a de fortes chances que cette vision soit contestée par la jeunesse africaine qui n'accepte plus ce que les pères fondateurs ont accepté. Donc il appartient à la France de tirer toutes les leçons. Il appartient également à nos dirigeants de comprendre que les populations africaines n'acceptent plus la soumission telle que présentée dans l'ouvrage.
Professeur Nguessan Mohamed, nous vous disons merci.
Merci.
L'invité de la rédaction de ce jour, Nguessan Mohamed, enseignant au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody, professeur d'histoire politique et juge, était interrogé par Aoussi Potin. Cet entretien marque la fin de cette édition, le rappel du principal titre. Opération de révision de la liste électorale. La commission électorale indépendante a organisé une rencontre d'information et d'échange avec des organisations de la société civile en prélude à la présidentielle de 2025. Vous avez eu les précisions du coordonnateur de la convention de la société civile ivoirienne, Mahamadou Kouma, en début d'édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez dans quelques instants donc Mel Emmanuel pour la revue des titres. Excellente suite de programme sur Radio de la Paix.
Bonjour à toutes et à tous. Beaucoup à dire, beaucoup à écrire sur la Fédération.